pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Aujourd'hui, nous parlons de la dette écologique avec notre invité Renaud Duterme, agrégé en sciences du développement de l'Université libre de Bruxelles, auteur avec Éric de Ruest de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Alors, nous avons beaucoup parlé des catastrophes liées au pétrole dans la première partie de cette émission, mais il n'y a pas que le pétrole, il y a ce que vous appelez le cauchemar chimique. Et quand on parle de catastrophe chimique, eh bien, on pense à l'Inde et à l'enfer qu'a connu la ville de Bhopal dans la nuit du 3 décembre 1984. Une usine de pesticides de la multinationale américaine Union Carbide rejette dans l'air 40 tonnes d'un produit très toxique, provoquant la mort de milliers de personnes.
En 1984, on ne connaissait même pas l'existence de la compagnie Union Carbide. Cette nuit-là, nous dormions lorsque le gaz s'est échappé de l'usine. Nous avons été réveillés par un voisin qui a tapé à notre porte et nous a dit « Levez-vous et fuyez, tout le monde est en train de mourir ici ». Dès que nous avons ouvert la porte, le gaz s'est engouffré dans la maison. Nos yeux se sont mis à brûler, nous ne pouvions plus respirer. Tout notre corps brûlait de l'intérieur et bien sûr, nous ne comprenions rien. À l'extérieur, c'était le chaos. Une foule de gens complètement désorientés qui couraient dans tous les sens. Ils voulaient tous rejoindre l'arrêt de bus pour quitter le quartier. J'ai vu tous ces gens courir et nous avons décidé avec ma famille d'aller jusqu'à l'arrêt de bus. Dans la panique, certaines personnes ont laissé leur famille sur place. La douleur était si forte qu'ils en oubliaient jusqu'à leurs propres enfants et ne pensaient qu'à sauver leur peau. Nous sommes restés tous ensemble. Nous avions 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, et on se tenait tous la main pour ne perdre personne. Nous avons essayé d'atteindre l'arrêt de bus, mais nous ne pouvions pas avancer, nous ne pouvions pas respirer. Sur le chemin, mon mari est tombé sur une pierre et il n'a pas pu se relever. Alors nous sommes restés avec lui. Mes filles hurlaient de douleur, elles se sont évanouies, alors j'ai mouillé un vêtement avec de l'eau qui coulait d'un tuyau. Je ne savais pas si c'était bon pour elles, mais apparemment cela les a soulagées pour un temps. Et soudain, nous avons entendu une annonce disant que la fuite était terminée et que nous pouvions rentrer chez nous. En ouvrant la porte de notre maison, nous n'avons pas réalisé tout de suite que le gaz était encore à l'intérieur. Nous sommes rentrés l'un après l'autre et nous nous sommes tous évanouis. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Et là, j'ai vu l'horreur. Des centaines de corps entassés les uns sur les autres. J'ai paniqué. Il n'était pas question de mourir comme ça. Alors, nous avons fui cet endroit et nous sommes rentrés chez nous.
Union Carbide n'a jamais pris le soin de vous informer de ce qui s'était passé?
Jamais. Union Carbide n'a jamais rien annoncé. Pour nous soulager des effets du gaz, nous aurions pu utiliser de l'eau. Mais la compagnie ne nous a jamais rien dit à ce moment-là.
Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à mener un combat pour les victimes de cette fuite de gaz?
Oui, c'est la raison. J'ai vu toute ma famille souffrir à cause de ce gaz. Mon mari est mort, 2 de mes fils se sont suicidés car ils ne supportaient plus les douleurs. 1 de mes filles est paralysée. Toutes ces souffrances et aucune considération de la compagnie pour les victimes. J'ai décidé de me battre pour faire respecter la justice pour l'avenir des générations futures.
Extrait d'un reportage d'Alexia Gaillard diffusé dans C'est pas du vent. Votre réaction?
Il n'y a pas grand chose à dire.
Le silence de l'Union Carbide est édifiant.
C'est vraiment ça, le silence. Et puis, il y a eu quelques indemnisations, mais vraiment pas grand chose. Et puis, vraiment, non-responsabilisation. Quelque chose aussi qui me semble aussi important de mentionner, c'est que je pense que cette catastrophe reflète aussi les dérives d'une certaine mondialisation néolibérale qui impose l'ouverture des frontières commerciales, etc. Pourquoi? Parce que il y a une mise en concurrence des normes environnementales dans tous les pays. Et donc, vous avez toute une série d'usines de pesticides qui, parce que c'est trop réglementé dans les pays riches, sous couvert de l'opinion publique, etc., vont implanter leurs usines dans des pays pauvres où les normes sont nettement moindres, avec les conséquences évidemment de défaillance de sécurité qu'on voit là, quoi. Et donc on remarque aussi à toute une série d'autres catastrophes beaucoup moins médiatiques, mais qui ont lieu dans des quartiers pauvres des grandes mégapoles du tiers-monde.
J'aimerais que vous nous parliez maintenant de la révolution verte et de la puissance de ces multinationales. On peut citer les grands groupes, hein, Monsanto, Dow Chemical ou DuPont de Nemours, ce sont les grandes industries de l'agroalimentaire qui sont dans les pesticides, les défoliants toxiques, et eux, bah, vous leur en voulez dans votre livre.
Mais on en veut même, en fait, au concept même de révolution verte, parce que les défenseurs de la révolution verte disent donc que ça a permis de nourrir les gens, etc. Bah,
rappelez-nous ce que c'est d'ailleurs. Oui.
Donc la révolution verte, c'est vraiment un ensemble de techniques qui a été mis au point après la Seconde Guerre mondiale pour révolutionner, industrialiser l'agriculture dans le monde, et notamment donc dans les pays en développement, notamment l'Inde, et donc où Bhopal est clairement un dommage collatéral de cette révolution. Le problème de cette révolution verte, à notre sens, c'est qu'elle industrialise justement donc l'agriculture sans remettre en cause les fondements même de l'injustice agraire, donc de la redistribution de terres des gens. Et donc, du coup, on arrive dans une révolution industrielle de l'agriculture qui coûte de plus en plus cher aux producteurs parce qu'il faut acheter des intrants, il faut acheter des pesticides, etc. Et donc, où les producteurs sont de plus en plus dépendants du marché externe. Et ça, c'est le gros problème de la révolution verte qui se fait ressentir jusqu'à aujourd'hui, puisque le nombre de paysans qui se suicident en Inde et dans d'autres pays est complètement faramineux parce qu'ils sont endettés vis-à-vis de grands semenciers que vous avez, donc les grands acteurs de la révolution verte que vous avez mentionné, que sont Monsanto, etc.
Mais alors, ce qui est fou, c'est que cette révolution verte avait pour but de lutter contre la malnutrition, et que finalement, en appauvrissant les paysans, les rend encore plus affamés.
Voilà, et non seulement ça, elle a appauvri les paysans, mais elle a également appauvri l'environnement, puisqu'on a eu une standardisation des cultures, on a eu un appauvrissement des sols, puisqu'on privilégiait vraiment l'agriculture intensive. Et encore une fois, sans vraiment remettre en cause le contexte d'inégalité foncière qui, et c'était déjà dénoncé à l'époque, est vraiment la seule, et jusqu'à aujourd'hui, est vraiment la seule manière de résoudre la faim dans le monde, qui est toujours un fléau à l'heure actuelle, puisque vous avez une personne sur sept dans le monde, au minimum, qui souffre de la faim. Donc on voit que la révolution verte n'est pas vraiment un succès comme ses défenseurs le prétendent souvent.
Parce qu'au fait, cette révolution verte, au début, elle était favorisée, demandée même par la Banque mondiale, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc c'est tous les grands groupes internationaux qui allaient dans ce sens.
Oui, il y avait un certain consensus à l'époque. Je pense qu'il y a des gens là-dedans qui étaient sincères et qui croyaient vraiment, on a toujours le progrès un petit peu dans notre société de la mécanisation, de l'industrialisation, etc. Mais à notre sens, et ça aussi, c'est, je pense que le concept de dette écologique est important, c'est que tant qu'on ne remet pas en cause des inégalités et des liens d'exploitation, toute une série de solutions qui sont avancées ne peuvent qu'aggraver le problème. Et la révolution verte en est un.
Un autre gros problème que vous soulevez dans le livre, nos auditeurs en sont conscients, c'est le problème de la dette. Expliquez-nous, parce que là aussi, la Banque mondiale finalement a incité de nombreux États à s'endetter, mais la catastrophe n'était pas loin.
Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, donc nous on remonte jusque depuis Christophe Colomb, l'époque des colonisations, et ce que beaucoup de gens disent, l'époque coloniale est terminée. Oui, sauf qu'il y a vraiment un outil de néocolonialisme qui maintient les pays pauvres dans leur situation de fournisseurs de matières premières, qui est la dette. Et donc un système qui consiste à endetter les pays pauvres et pour rembourser leurs dettes, d'ouvrir leur marché et d'accaparer leurs ressources. Et donc ça, c'est le cas dans quasiment tous les pays du tiers-monde, et les grands financiers, les grands créanciers de ces pays pauvres sont le FMI, la Banque mondiale, mais également toute une série de pays riches à travers des prêts bilatéraux. Donc clairement, nous on pense que la dette est la pierre angulaire d'un système néocolonial qui permet de fournir les matières premières aux pays du Nord, avec toutes les conséquences écologiques que ça a, puisque pour rembourser leurs dettes, les pays seront contraints donc d'abattre, de vendre leurs forêts, de vendre toutes leurs ressources minières, sans aucune considération pour l'environnement, seul primera une exploitation intensive.
C'est ça, vous parlez de la déforestation au Brésil, en Indonésie ou au Cameroun, mais aussi les effets sur les cours des matières premières. On incite les paysans à produire plus, pour vendre plus, pour rembourser la dette, mais du coup les cours chutent et il faut toujours produire davantage et appauvrissement des sols. Voilà, on arrive à une catastrophe encore là.
Voilà, la crise de la dette donc qui a commencé commencé en 1982 par le Mexique, donc a été causée par, d'une part, par l'augmentation des taux d'intérêt décidés unilatéralement par les États-Unis, mais également par la chute des cours des matières premières, puisqu'on avait contraint ces pays à produire des matières premières dont la plupart produisaient les mêmes. Et donc, du coup, forcément, vous avez eu un excès d'offres pour une même demande qui a fait chuter les cours. Et donc, clairement, ça a conduit à une situation où les pays pauvres ont dû payer plus avec moins de revenus, et ça les a jetés dans les bras du FMI qui, au nom du remboursement de la dette, a encore imposé donc une surspécialisation dans ce qu'ils avaient, c'est-à-dire des forêts, des minerais, etc.
C'est pas du vent sur RFI.
On fait danser, ouais, c'est interminable. Faut pas perdre la boussole, tu vends, on te vend et tu es redevable. Africa, enchaîné à fond de cale, même le sol. Pourquoi cette dette, ce poids sur nos têtes, ouais. Le génocide passé, les échanges, la traite, notre sang, nos ancêtres, n'ont-ils pas trop servi? Aujourd'hui leurs enfants payent un crédit à vie. Pourquoi cette redevance, nos pays n'ont-ils pas contribué au développement des USA, de l'Europe, donc de la France? Pourquoi et de quel droit divin? On veut notre pain, pourtant on vous laisse le vin, ouais. On connaisse l'esclavagisme comme crime humanitaire, et qu'ils payent comme ont payé les fachos d'hier. Parlons d'histoire, parlons donc des bêtises d'hier. Pourquoi nous taire, regarde le monde et son bêtisier. Sauver un milieu des milliers de jeunes qui errent. Annuler la dette et lâcher donc la terre mère. C'est l'histoire de champignons qui vit au profit d'un arbre. Histoire de rapport entre nations faite de pleurs et d'armes. Président africain, se tiennent la main. J'aimerais tant qu'on reparte, qu'ils aient été bons ou mauvais. Effacer le passé, donner un lendemain. Un nouveau départ à nos enfants, une nouvelle destinée. Faut plus lâcher, éduquer et avancer. Faire fructifier, pouvoir garder nos intérêts. Les fils d'Afrique en ont marre de trimer, marre de pleurer, de se faire rouler, souiller, exploiter, insulter. Mais je sais qu'il faut un remboursement dans l'histoire. Pour le monde, de sacrées questions que valent 20 millions de noirs. Et quel est le prix de ces matières premières dérobées, sans lesquelles ne peuvent tourner vos belles Bentley? Notre sang a la même couleur que le vôtre. On a un cœur comme les autres, de qui êtes-vous un vôtre? Annulons au moins cette bête date, trouvons la bonne voie. Redonner un droit de vivre, la paix et la foi.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la dette écologique avec notre invité Renaud Duterme, auteur de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Mondialisation, surconsommation, la quantité de déchets en tout genre que nous produisons explose. Certains déchets deviennent des marchandises comme les autres et une partie du monde se transforme en décharge. Ainsi, le Ghana, par exemple, est devenu une décharge pour déchets électroniques.
Nous sommes à l'entrée du marché d'Agboblochi. Pour l'instant, la décharge est cachée, elle est derrière le marché. Mais on voit une épaisse fumée noire qui monte et qui sent très fort, qui pique les yeux et qui arrive jusqu'à nous. Alors là, nous traversons un pont au-dessus de la rivière Odo, une rivière qui ressemble plus vraiment à une rivière. L'eau est noire et épaisse, remplie de déchets.
On the banks of the river, what you see.
Sur les rives de la rivière, ce que vous voyez là, ce n'est pas du sable, mais ce sont des couches et des couches de déchets électroniques, des frigos, des ordinateurs, des écrans de télévision. Chaque mois, 500 containers de déchets électroniques en provenance des pays industrialisés sont débarqués au Ghana et finissent ici, à Agboglochi. Personne n'en veut puisqu'ils contiennent des métaux lourds, du plomb, du mercure, et ils sont envoyés ici et jetés sur le site.
Ils cherchent du cuivre et du métal, ils les enlèvent des ordinateurs démantelés, ils les brûlent. Ils enlèvent les câbles, les fils, puis ils les brûlent. Après, ils enlèvent le cuivre et vont le peser là-bas, où ils se font payer.
Ah, et donc c'est marqué en français, une étiquette verte. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Alors cet ordinateur vient de Bretagne. agréé par le ministère des Postes et Télécommunications. Donc c'est un très très vieil ordinateur hein, puisqu'il date de 1992.
Regardez celui-là dans les yeux. Vas-y, montre-nous tes yeux.
Il a du mal à ouvrir les yeux. Comment te sens-tu? Il se sent pas très bien apparemment.
Ah, il n'arrive pas à les ouvrir à cause de la fumée. Tu as mal aux yeux?
Je ne sais pas. Je suis allé me coucher et quand je me suis réveillé, c'était comme ça. Ça me fait mal. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Tous les jours, quand je me réveille, c'est comme ça.
Extrait d'un reportage d'Amélie Tullet qui était diffusé dans C'est pas du vent déjà. On retrouve la même situation aux Philippines, hein, Renaud Duterme, avec ce business des déchets électroniques.
Dans toute une série de régions du monde, en fait, en Chine, aux Philippines, on a donc au Ghana, à Haïti, etc. Toute une série de pays qui sont assez, en général, pauvres, ou soit aussi défaillants sur le plan juridique, et donc qui sont propices à toute une série de trafics mafieux, d'exportation de déchets électroniques, puisque c'est normalement illégal, donc vous avez la convention de Bâle qui a été signée par 150 États, je pense, donc qui interdit ça, mais c'est notamment le cas du Ghana, c'est sous couvert d'aide, c'est-à-dire qu'on dit que la plupart des ordinateurs qui sont envoyés là sont encore en état de marche. Or, c'est tout à fait faux, parce que quand on regarde sur la réalité ou quand on interview des gens, vous avez seulement un faible pourcentage des ordinateurs qui sont en état de marche, donc sous couvert de ça, on se débarrasse vraiment de déchets qui coûteraient beaucoup plus cher à être démantelés dans les pays riches.
Selon une étude du PNUE, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement, eh bien, se débarrasser d'un déchet toxique ne coûterait que 2,5 dollars la tonne en Afrique contre 250 dollars en Europe. Tout est dit avec ces chiffres.
Voilà, c'est encore toujours la question du profit qui prime. Et encore une fois, sans aucune considération, ni sur les vies humaines, puisque vous avez vraiment des villages et des sociétés qui sont brisées, ni sur l'environnement. Vous avez un autre cas emblématique, et notamment qui concerne la France, c'est le désamiantage des bateaux, avec le fameux Clémenceau qui devait être désamianté en Inde, qui, sous pression d'organisation et de mobilisation populaire, notamment menée par Greenpeace, a finalement été démantelé en France, mais vous avez, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que la grande majorité des bateaux qui sont pourtant utilisés par des pays riches sont démantelés dans certaines régions d'Inde, sans aucune évidemment sécurité sanitaire pour les ouvriers.
Mais alors là, j'en reviens aux déchets électroniques, comment faire pour empêcher ça? C'est au niveau des grandes multinationales ou de particuliers qui veulent en faire un business qu'il faut faire de la sensibilisation, expliquer comment...
Alors il y a plusieurs choses à faire, à mon avis déjà, mais c'est clairement encourager une législation qui surveille nettement plus, à la fois au niveau européen et au niveau des pays, au niveau nationaux. Autre chose également, je pense, c'est sensibiliser aussi les consommateurs sur ça. Mmh. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est notamment par rapport au fameux effet de mode où on rachète, je sais pas, combien de GSM par an ou combien d'ordinateurs dès qu'il est dépassé, etc. Clairement, je pense que si les gens savaient aussi ce que deviennent les produits une fois qu'on les jette, ça pourrait peut-être faire réfléchir aussi les gens. Donc vraiment essayer de faire prendre conscience à ça et lutter contre la publicité, contre l'obsolescence programmée et donc toute une série de choses qui fait qu'on rachète tout le temps, puisque là encore une fois c'est un peu au cœur de la dette écologique, mais les conséquences de notre consommation se font sentir bien loin et donc ça n'incite pas à une prise de conscience écologique qui à notre sens c'est une des clés pour lesquelles pour comprendre le fait que il n'y a pas vraiment de solution qui émerge aux problèmes environnementaux qu'on évoque tout le temps.
Parce qu'on peut refuser hein, certaines nuisances dans son environnement, c'est le syndrome NIMBY, hein, not in my backyard, pas dans mon jardin en français.
Pour bien expliquer ça, je cite une déclaration de Larry Summers, qui était président de la Banque mondiale, qui est prof à Harvard, qui a été conseiller du président Obama, et qui dit qu'en gros, que les pays d'Afrique sont sous-pollués, et donc envoyer les déchets toxiques là-bas, ça ne change pas grand-chose, ça ne fait que rétablir en fait l'équilibre. Mais plus généralement, ce qui est important à comprendre, à mon avis, avec le syndrome NIMBY, donc pas dans mon jardin, c'est qu'il y a toute une série de progrès écologiques qui sont faits au détriment des autres. Et ça s'est déjà fait dans l'histoire. On peut prendre l'exemple de l'Europe ou du Japon, qui ont réduit leur déforestation sur leur territoire, mais en allant puiser les arbres ailleurs. Le Japon a réduit sa déforestation en allant puiser ses forêts aux Philippines. Et là, on le voit encore actuellement. On pointe beaucoup la Chine comme le premier responsable des changements climatiques. Alors, c'est peut-être vrai actuellement. Et encore, si on prend la taille de la population, ça ne l'est pas. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a toute une série d'industries qui ont été délocalisées en Chine. Et donc, voilà, les progrès écologiques que nous on fait, mais c'est au détriment des autres. Et là, maintenant, la crise est tellement globale que délocaliser les nuisances, ça devient impossible, puisqu'on est tous dans le même bateau et donc une usine émette de l'effet de serre à un bout de la Terre ou à un autre, l'effet commence à se faire sentir partout.
Alors un petit mot sur les sommets, il y a eu Bonn, Cancun, Copenhague, Doha, Durban, Nagoya, Rio, Varsovie, autant de villes où se sont tenus des sommets internationaux sur le climat, la biodiversité ou le développement durable, mais pour quels résultats ? au nom du terme?
Mais je n'en vois pas beaucoup de positifs, si ce n'est peut-être une mobilisation un peu des différents mouvements écologistes à ces différents sommets. Mais à part ça, il n'y a vraiment rien qui est sorti. Et depuis Kyoto, on voit que depuis la signature du traité de Kyoto, il n'y a absolument rien qui a été fait. Tant que les pays riches n'accepteront pas une décroissance, entre guillemets, je sais que le terme des fois fait un petit peu peur, on ne peut pas en vouloir, entre guillemets, aux pays pauvres de ne pas faire d'efforts, puisque leur argument, qui, entre guillemets, est avéré, c'est de nous suivre, nous. Et donc là, on est vraiment dans une impasse complète, et c'est là que je pense que la dette écologique peut amener quelque chose, puisque la dette écologique, encore une fois, donc ça montre essayer de rétablir un peu les responsabilités historiques dans la crise climatique que l'on connaît actuellement. Parce qu'historiquement, c'est pas du tout la Chine qui est responsable des changements climatiques. L'accumulation de CO2 dans l'atmosphère a commencé plus ou moins au début de la révolution industrielle, il y a deux siècles, quelles étaient les régions qui s'industrialisaient? C'était pas la Chine, c'était l'Europe, c'était l'Amérique du Nord et dans une moindre mesure le Japon. Il faut bien rétablir les responsabilités de manière équitable, je pense.
Et justement, alors, les solutions, on a vu par un accident comme Bhopal, on peut à peu près déterminer un coupable, juger combien de personnes ont subi les conséquences, mais pour le réchauffement climatique, comment on le quantifie, comment on fait?
Alors, c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on ne peut pas le quantifier, et surtout, c'est que les effets sont assez diffus. Ce n'est pas comme une catastrophe ponctuelle qui est visible, mais ce qui est important, c'est que les effets des changements climatiques sont déjà en cours. Dans certaines régions tropicales, on voit des saisons des pluies qui diminuent, on voit de plus en plus de catastrophes naturelles assez extrêmes. Donc, alors, comment quantifier ça? Encore une fois, on pourrait peut-être... Il faut d'abord une prise de conscience, et quelque chose qui... nous semble fondamental, et c'est un peu l'objectif de ce livre, c'est de montrer que les exploitations environnementales et humaines sont complètement liées. Et donc, de ce fait, je pense qu'il faut que toute une série de syndicats et de mouvements écologistes commencent à s'unir pour comprendre que les causes des problèmes qu'ils dénoncent sont les mêmes, à savoir une oligarchie, je pense qu'on peut dire le mot, au niveau mondial, qui est composé de multinationales, de grands chefs d'entreprise, de milliardaires, etc., qui vraiment s'accaparent les ressources.
Vous parlez d'une oligarchie, mais écoutez ce qu'en pense l'intellectuel Patrick Vivray. Pour lui, la crise est une arnaque, un récit inventé par cette oligarchie, justement.
Il y a une autre idéologie qui est aujourd'hui à l'œuvre quotidiennement, qui est l'idéologie de la crise. Parce qu'en réalité, le mot crise sert d'écran à deux phénomènes qui sont complètement différents. D'un côté, cette grande mutation, cette métamorphose dont on parle, et là, que ce soit la mutation informationnelle, que ce soit le basculement du monde avec la fin de la domination occidentale, que ce soit l'émergence de la question écologique, tout ça, ça participe de cette mutation, de cette métamorphose. Et puis, d'un autre côté, vous avez ce qu'il faut bien appeler un formidable détournement de richesse par une toute petite partie d'une oligarchie mondiale. L'étude du chef économiste de McKinsey évoquait que sur ce qui transite dans les paradis fiscaux, qui représente entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars, donc des sommes absolument considérables, elles sont détenues à 50%, non pas par 1%, non pas par 0,1%, mais par 0,01% de la population mondiale. Et ça, c'est pas de la crise, ça c'est ce qu'on peut appeler de l'escroquerie en bande organisée, et c'est très important d'arrêter de nous laisser intimider par le mot « crise », qui nous fait croire qu'on est, par exemple, condamné à des programmes d'austérité. Ouais. Vous avez un grand banquier, Jean-Michel Nolot, qui était aussi membre de l'autorité de régulation des marchés financiers, qui n'hésite pas à parler de dictature des marchés. Et il faut effectivement non seulement du courage pour les dirigeants politiques, mais il faut une énorme pression citoyenne internationale. Parce que le problème, c'est que les marchés, eux, ils votent tous les jours. Et donc, il nous faut être capable de mettre la barre au même niveau.
Les marchés, votre nom du terme.
Oui, tout à fait. Et ça me fait penser, je pense que quelque chose qu'il faut que notamment les mouvements écologistes doivent prendre en compte, c'est que c'est une rupture avec ce qu'on appelle l'écologie profonde, c'est-à-dire l'environnementalisme, en disant voilà, la défense de l'environnement, la défense de contre la chasse aux baleines, etc., qui est importante. Mais ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens, c'est que les grands problèmes écologiques, leurs causes sont justement économiques. Et donc, c'est pour ça que j'appelle vraiment à une union entre les revendications écologistes et les revendications des syndicats, en disant voilà, on est toute une population, et la majorité, aux États-Unis, le mouvement Occupy Wall Street mentionne les 99% contre les 1%, qui eux ne subissent pas spécialement les nuisances écologiques, les nuisances liées à la malbouffe, parce qu'en général, de par leur argent, ils peuvent se prémunir temporairement de ça. Et donc, je pense vraiment qu'il faut une union entre les mouvements écologistes qui prennent conscience que dans un contexte d'exploitation économique, parler d'écologie sans remettre ça en cause n'a pas de sens et est palliatif. Et c'est un des gros problèmes, je pense, notamment des sommets, c'est qu'on ne remet absolument pas en cause les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre.
La crise et le climat de récession nous détournent des questions environnementales, écrivez-vous.
Oui, tout à fait, mais on le voit déjà par les gouvernements. Il suffit de voir un petit peu maintenant le remaniement du gouvernement en France, où les questions écologiques sont complètement secondaires, la priorité est l'emploi, etc. Il suffit de voir aux États-Unis le soutien populaire au gaz de schiste parce que c'est créateur d'emplois. Je parlais des mouvements écologistes qui devraient, faire leur remise en question, mais je pense que beaucoup de syndicats doivent également refaire leur mise en question, et c'est-à-dire ne pas revendiquer une croissance à tout prix, quels que soient les impacts environnementaux, le soutien au gaz de schiste ou des choses comme ça qui est créateur d'emplois. Je pense que c'est une décision qui est complètement aberrante. À l'inverse, je pense qu'il faudrait que ces deux mouvements arrive à des revendications communes qui existent. Notamment, moi, je pense à une revendication clairement maintenant, c'est la remise en cause des traités de libre-échange et en particulier le traité qui est en train de se mettre en place entre les États-Unis et l'Europe, qui va avoir des conséquences sociales mais également environnementales catastrophiques. Puisqu'encore une fois, on va mettre en concurrence des normes environnementales en sachant très bien que les réglementations écologiques aux États-Unis sont beaucoup plus faibles que les nôtres et donc ça va clairement aller avoir un nivellement à la baisse. Il faut vraiment, à mon avis, trouver des positions communes, comme la remise en cause de la dette aussi, que ce soit évidemment dans le tiers-monde, mais même également chez nous, puisque la dette est clairement un transfert de richesse des classes populaires vers les plus riches, et ça a des conséquences écologiques importantes, puisque la transition énergétique va coûter de l'argent. Et donc tout l'argent qui est remboursé au nom de la dette, il faut savoir qu'en Belgique, en France, c'est quasiment la première dépense de l'État, mais c'est évidemment de l'argent qui pourrait être consacré au développement des transports en commun, à une relocalisation de l'économie, et toute une série de mesures qui existent et pour lesquels on manque de financement, soi-disant.
Eh bien, merci beaucoup, Renaud Duterme. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La dette cachée de l'économie, le scandale planétaire, paru aux éditions Les liens qui libèrent. C'est déjà la fin de cette émission. À la technique et à la réalisation, c'était François Porcheron. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Cécile Bras derrière ce micro. Très bonne journée. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.